Joe Sevron, de la digitalisation du geste instrumental. Alors, Michael Josson, il est par ailleurs un clarinettiste et il a travaillé notamment aussi avec des laboratoires de recherche. Donc aujourd'hui, il nous présente un dispositif qui s'appelle le clarinette. Et l'optique est de construire et de digitaliser le geste instrumental. Il va nous présenter tout ça et on lui laisse tout de suite la parole.
Merci. Bonjour. Merci pour l'invitation. Je ne suis pas clarinettiste, je suis saxophoniste, mais je joue un instrument avant. Et oui, ce dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu différent des conversations qu'on a eues ce matin, puisque on est la première diapositive. Donc, je travaille pour Buffet Compon. Pour ceux qui ne le savent pas, Buffet Compon est un fab et conversation de musique à avant, et qui fête ses 200 ans cette année. Donc nous sommes créés depuis 1825. Et nous sommes spécialisés dans la fabrication d'instruments de musique, typiquement de la famille des bois, à savoir les clarinettes, le basson, le bois, le saxophone. Aujourd'hui, mon entreprise s'est transformée en groupe et assez grossie, puisque on représente environ 900 collaborateurs, 13 marques sur 7 sites de production. Et on a encore plus de 200 de nos collaborateurs, dont moi, qui sont basés à Mandaville, dans les Yvelines, sur le site historique. Alors, j'ai essayé d'adapter ma présentation au thème d'aujourd'hui, et notamment, en fait, les instruments acoustiques traditionnels, ils existent depuis des années, voire des siècles. Ils ont évolué au cours des siècles, souvent pour satisfaire les compositeurs qui recherchaient toujours à jouer des choses plus complexes, et donc la facture instrumentale a essayé d'accompagner les musiciens pour atteindre ces performances. Et on peut considérer que c'est bon, maintenant les instruments traditionnels sont figés et qu'il n'y a plus rien à inventer. Heureusement pour moi, il y a encore un certain nombre de problèmes irrésolus, notamment pour tout ce qu'on appelle l'instrument de la famille des trous latéraux. Donc, la famille des trous latéraux, c'est justement tout ce qui est clarinette, saxophone, flûte traversière ou hautbois, puisque le son sort par tous les orifices ouverts de l'instrument qui sont situés sur les côtés. Donc, il y a déjà des tentatives qui ont été apportées par le passé, comme vous pouvez le voir avec cette magnifique publication d'un journal américain dans les années 1920 ou 30, avec le clarinette practiceur. En fait, on mettait la clarinette dans une boîte pour pouvoir atténuer son son et permettre à l'instrumentiste de s'entraîner. Donc ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est ça. Est-ce qu'on peut permettre la pratique silencieuse de la clarinette? C'était le début des travaux de recherche et développement qu'on a entamé il y a maintenant plus d'une dizaine d'années chez Buffet Compon. Voilà. Donc la clarinette, comme on a vu beaucoup de choses sur l'électronique ce matin, je vais essayer de présenter rapidement l'instrument. Donc, il est composé d'un bec. Sur le bec, il y a une manche en roseau, et c'est le fait de souffler dans ce bec, cette manche en roseau, que l'on produit du son. Donc, le son est produit en faisant vibrer les manches, et l'élévation de manche est propagée à ce qu'on appelle un résonateur en acoustique, qui est en fait le corps de l'instrument. Attention, il me manque un bras. C'est là où je précise que je ne suis toujours pas clarinettiste. Et donc, en venant changer l'état de la forme de clé, qui vient rallonger ou raccourcir ce résonateur, on va changer la fréquence de la manette jouée, sachant que la fréquence de vibration de manche va être dans ce cas-là imposée par celle que donne le résonateur. Je vais en rester là pour l'instant. Donc une sourdine. Donc les sourdines, ça existe depuis très très longtemps. Donc on pourrait se dire, pourquoi ne pas mettre une sourdine sur une clarinette comme on fait sur une trompette ou encore naturelle? Bien, tout simplement parce que, comme je le dis précédemment, le son va rayonner par tous les trous ouverts. ce qui est donc théoriquement impossible sans avoir instrumenté considérablement la carte. Cependant, à noter, il existe quand même des solutions qui est un petit peu l'évolution du practice sensor qu'on a vu plus haut, qui sont des espèces d'étuis de boîtes où on vient mettre l'instrument entièrement et on va jouer avec des écouteurs greffés sur la boîte. Voilà. Et donc le pitch de la présentation, c'est comment pouvoir contrôler le volume et conserver la bonne rythme d'un instrument traditionnel, être facilement transportable, ce qui n'est pas vraiment le cas de l'étui qu'on a vu précédemment. Et ce qui nous amène à nous poser la question, est-ce qu'on peut digitaliser l'instrument traditionnel comme une clarinette, comme ça a été fait par exemple pour le piano et synthétiseur. Donc, ce qui a été fait pour le synthétiseur, c'est de tout numériser. Donc, il existe déjà depuis au moins une soixantaine d'années, je peux le dire, comme des instruments avant électroniques. On a vu des exemples ce matin qui étaient joués en orchestre. On a parlé du sifflet, je crois. Et donc, vous voyez qu'il existe une multitude d'instruments qui ressemblent plus ou moins à des instruments réels avec, sur votre droite, carrément des instruments avec une réelle ergonomie qui ont été entièrement instrumentés, c'est-à-dire avec des capteurs électroniques à l'intérieur. Et dans ce cas-là, le fonctionnement acoustique de l'instrument est sacrifié. Donc, nous, on est à la base, dans le cadre d'un instrument de musique, on sait travailler le bois et le métal, le mettre en forme et faire un instrument traditionnel. Donc, on n'a pas choisi d'aller dans la création d'instruments totalement digitaux ou numériques. Mais on s'est posé des questions de savoir est-ce qu'on pouvait créer un hybride entre les deux. C'est-à-dire de revenir aux fondamentaux et de savoir qu'est-ce que ça veut dire en fait digitaliser le geste du clarinettiste. Donc, qu'est-ce qu'il fait le musicien? Comme je vous l'ai montré, il change le doigté pour changer la combinaison des trous ouverts de l'instrument. Et de l'autre côté, donc, il produit le son en soufflant dans un bec, faisant vibrer les manches, et avec ses barres de bouchure, donc les barres de bouchure, c'est la façon dont il va maintenir son manche, il va pouvoir jouer sur la justesse et le timbre. Et aussi, un troisième facteur, pour être totalement honnête, qui entre en jeu, c'est le combi vocal, qui notamment pour être très aigu, va être très important, et va permettre la réaction. Donc voilà ce qu'on a tenté de faire, et que je vais vous présenter. On a développé un petit dispositif c'est ce que vous voyez en haut à gauche qu'on appelle le ClarinMate et qui permet qu'il s'ajoute à un instrument une clarinette normale sans aucune modification actuelle et qui permet de mesurer quels sont les paramètres de contrôle du musicien, de quelle façon il va souffler et quel mode il va jouer en temps réel. Et c'est l'avantage de cette solution, c'est qu'elle est complètement réversible. Il n'y a pas de modification sur l'instrument de départ. On peut passer d'un mode de jeu complètement acoustique à un mode de jeu complètement digital. Oui. Donc, alors, après, c'est vrai que je vais essayer de faire la démo en temps réel. C'est pour le jack, mais là j'ai connecté en fait mon dispositif que j'ai appelé entre le bec et le baril en Bluetooth à une tablette dont je vous présente le résultat à l'écran. Donc ce qu'on peut y voir, c'est que en temps réel, que je tire le banc, l'ensemble des doigts sont enlevés.
Donc c'est la première chose. Donc c'est déjà une prouesse technologique en soi, puisque je n'ai pas instrumenté l'instrument. J'ai à part un capteur sur chaque clé ou quoi que ce soit. Donc, je vais vous expliquer un peu plus tard comment ça fonctionne. Et ça nous a pris environ 10 ans de mise au point.
Je vais le calculer.
Donc déjà, on s'est détecté l'état ouvert des trous en temps réel, et on était très contents d'en arriver à ça. La deuxième chose, c'est de détecter les paramètres d'embouchure, les paramètres de souffle. Donc vous voyez, il y a deux cadrans, un bref et la trou de logiciel, je vais le mettre en français. Et donc le premier montre la façon à laquelle je souffle. Et le deuxième ride en dessous, là, je suis sur manche. En fait, quand on est arrivé là, on était extrêmement contents parce que d'une part, on a quelque chose qui se contrôle comme un instrument, c'est-à-dire avec le souffle, et en plus, on a un effet de l'embouchure sur la justesse de l'instrument. Voilà, et donc on a commencé par numériser le comportement de l'instrument, et on s'est dit, est-ce qu'on va aller plus loin? Donc ce matin, j'ai entendu par exemple que ce qui était compliqué avec l'instrument traditionnel, c'est qu'on ne pouvait pas leur faire changer de timbre ou de son. Donc je vais montrer le contraire.
Donc je vais faire un court extrait, vraiment très très court, de la clarinette soprano si bémol. J'ai l'impression qu'il y a une réverb qui n'est pas due à moi, mais c'est pas grave. Et je vais mettre par exemple une basse. Je ne suis toujours pas clarinettiste. Voilà, donc le fait d'avoir digitalisé l'instrument, comme vous l'avez compris, c'est pas le son de l'instrument, c'est le son qu'on entend. Je ne fais pas vibrer l'anche, je n'ai pas transmis, sinon je ne saurais pas comment réduire le son. Donc il n'y a pas de vibration de l'anche, et je mesure les paramètres de contrôle du musicien, et j'alimente un moteur de synthèse qui va produire le son. Donc ça, c'est la synthèse embarquée qui est dans le système, qui est limité, mais ça vous donne la possibilité après d'être connecté, bien sûr, au monde du midi, et à produire plein d'autres sons que je vous montrerai plus tard. Ça aussi est peut-être un dernier avantage que je vais essayer de vous montrer quand je vais sur un son de... Je peux aussi me servir de mon dispositif comme une enceinte Bluetooth de forêt, c'est-à-dire je vais recevoir du son dessus et je vais pouvoir jouer dessus. Alors il faut imaginer que ce n'est pas du tout développé pour jouer avec des enceintes, mais l'idée c'est de jouer silencieusement chez soi pour s'entraîner et de manière à peu près. Je ne sais pas si ça peut être grand. Bon, ou alors je ne vais pas le faire et vous allez me croire sur parole. Mais bon, je peux aller sur YouTube, sur Spotify, quoi que ce soit, utiliser un logiciel de pleine langue, me mettre derrière et jouer dessus au casque, faire aucun problème.
Je crois que t'es pas connecté à Internet.
Ouais, mais je l'avais téléchargé. Bon, c'est pas grave.
Tu peux aussi changer les sons, par autre chose que la clarinette.
Alors là, en intégré, je peux faire. Alors en intégré, je peux faire que la clarinette, parce que j'ai une mémoire limitée, donc je ne peux pas en charger plus. Par contre, si je me connecte en midi, alors c'est bien l'anglais que je vais vous montrer. J'ai donc toutes les possibilités de jouer sur le type de vélocité, le canal midi, le CC utilisé, le pitch bend et transposer de moins 12 à plus 12. On va jouer dans toutes les tonalités. Et j'ai aussi différents playing modes, c'est-à-dire un qui est pour jouer certains sons, et un qui est plus adapté au software de mutation digitale comme Discord, Discord, parce qu'en fait la façon dont on sait qu'on se dit au midi-off change pour prendre des notes d'une meilleure façon. Bon, j'ai arrêté là ma démonstration et je vais vous montrer des exemples de gens qui utilisent mieux que moi.
Ah oui, bon, ça c'est bien sûr, vous posez des questions de comment ça marche. On peut vous appeler. Bon, alors comment ça marche? Juste. En fait, vous l'avez peut-être pas entendu, mais il y a un petit buzz qui est une bonne. C'est-à-dire qu'il y a un petit haut-parleur que j'ai monté d'ailleurs, je suis sur le congé joué avec le microphone, mon truc de niveau. Et ce haut-parleur envoie un signal qui n'a pas été choisi au hasard et qui en fait fait comme un peu un écho qui va rebondir dans la perte de l'instrument. Et en fonction de la réponse, il y a aussi un microphone qui permet de l'écouter en temps réel. En fonction de la réponse qui est donnée, on va pouvoir déterminer quelle note est jouée. Donc ça, ça paraît simple, dit comme ça, mais c'est très compliqué. Et de l'autre côté, on a des capteurs de pression qui permettent de savoir quelle intensité du surface que l'on joue. Et ce qui est plus compliqué après, c'est de mesurer la position de l'anche.
Parce que l'anche, donc j'ai mis une anche spéciale, j'ai pas gardé mon anche en bois. J'ai mis une anche
en plastique qui a cette forme-là, dont je vais vous parler juste après. Mais il n'y a aucune électronique dedans. Alors là, c'est juste pour expliquer ce que je disais sur la reconnaissance. En fait, quand j'envoie mon signal dans l'instrument, je fais un mi grave. Par exemple, je vais avoir le spectre que l'on voit en haut à droite. Et quand je vais jouer un sol 3, je vais avoir celui qui est en bas à droite. Donc ils sont assez différents. Et après, tout l'enjeu, c'est de savoir les comparer et les reconnaître en temps réel. C'est-à-dire que le temps réel, on est de l'ordre de inférieur à 6 millisecondes dans ce cas. C'est vraiment très très bon sur toute l'expression de l'univers. Et alors l'anche, donc c'est ce petit bout qui est normalement en bois que je vous montre. En fait, ce qu'on a fait, et qui est assez ingénieux, c'est qu'on a rajouté une cavité avec dedans un miroir. Je pense que vous ne voyez pas. Mais quand on vient appuyer sur l'anche, c'est-à-dire attends, on vient changer la surface de ce miroir. Du coup, de l'autre côté, on a deux LED infrarouges, une qui émet et une qui reçoit. Et grâce à ça, la surface de la lumière qui est envoyée, on sait déterminer si on appuie ou si on relâche l'anche. Voilà. Alors, je vais montrer un exemple de composition qui est donné par un de nos artistes qui donc, il a utilisé uniquement sa clarinette et le clarinet pour faire le bon son que vous allez voir. C'est une performance qui date déjà de 2 ans. Alors, bon, c'était pas ça normalement, mais pour le moment. Alors, celle-là est plus récente. Oui. En fait, c'est un musicien classique qui s'était mis dans le défi de jouer ACDC entièrement à la clarinette. Donc, c'est un peu la balle de roue. Et le son, ça arrive en France. Et là, c'est la première version de l'application qu'on voit en noir. Donc là, il fait la guitare avec sa clarinette. Il fait également la cymbale avec sa clarinette. Bientôt, on va aller dans la batterie. Voilà. Ensuite, il va jouer la basse.
Ouais. Bon, voilà. C'était un défi, un pari qui s'était donné à lui-même et qui a réussi avec succès. Et le deuxième exemple que je vous montre, c'est un peu plus récent. C'est deux de mes collaborateurs qui, en fait, ont voulu montrer ce qu'on joue la guitare électrique ou la basse. Ça fait longtemps qu'on peut jouer au casque sans faire du bruit. Mais ils voulaient travailler un morceau ensemble et ils ont décidé de se filmer. Ce que vous voyez en bas à l'écran, c'est la trad MIDI qui joue la clarinette. Et voilà, ils ont fait ça pour l'appartement de Paris.
Tu me dis quand on passe.
Bon voilà, un autre exemple. J'ai peut-être fait regarder du temps pour les questions. Donc j'ai juste en conclusion, le Clarimate est un nouvel outil qui est mis à disposition des clarinettistes, qui permet de répondre au problème initialement posé qui était la pratique silencieuse. Pour cela, ça nous amène à développer de nouvelles technologies, nous avons pensé à être inventif. Voilà. On a, je pense, en partie réussi à l'utilisation de la clarinette et des clarinettistes en situation de jeu. Et tout ça, ça nous a offert des nouvelles possibilités qu'on n'imaginait même pas au départ. Et donc j'ai envie de dire que l'histoire des instruments traditionnels entre le numérique et reste encore à écrire. J'espère que ça va marcher. Oui, parce qu'après du coup, on a commencé à passer des produits il y a déjà 2 ans, et maintenant on a des utilisateurs qui nous envoient spontanément des vidéos qu'ils font. Notamment celle-là, alors peut-être avancer un peu, c'est un peu la démarche inverse de ce qui était demandé ce matin, où on avait des contrôleurs ou des systèmes, on va dire, électroniques qui étaient transformés en instruments de musique. Bon, on a fait l'inverse, on a utilisé un instrument de musique qu'on a transformé en contrôleur.
Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Mickaël, pour cette démonstration. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ?
Est-ce que le clarinette s'applique au saxophone ?
Ceci est un clarinette. Non. En état, non.
Vous y réfléchissez ou pas ?
Oui, bien sûr. Peut-être qu'il y a une des choses que j'aimerais préciser, c'est que c'est vraiment, on appelle ça des instruments, enfin des dispositifs hybrides réversibles, puisque la particularité de notre démarche par rapport à ce qui existe dans les arts, c'est vraiment de faire quelque chose qui transforme un instrument existant, traditionnel, en un pont vers le numérique, vers le digital. Ce que cette première de ce qu'on espère sera une longue série. Le problème de base, c'est vraiment, est-ce qu'on peut jouer silencieusement la clarinette ? Donc c'est pas quelque chose qui va être développé pour jouer sur scène ou sur des musiques amplifiées. Parce que comme je vous l'ai expliqué, en fait, la détection de notes, elle est faite par un signal audio. Donc s'il y a un niveau de son très 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 fort autour, ça va perturber la détection de notes. Pour la clarinette, ça s'y prête assez bien. Le saxophone, par exemple, c'est quelque chose qui est plus utilisé dans la musique actuelle, ou le jazz ou autre, ou les musiques amplifiées. Donc on sait déjà que c'est une technologie qui... Enfin, c'est pas le meilleur cheval. Ça veut dire qu'on n'a pas de solution.
Il y a une question de Michel après.
J'ai deux questions. Une bête qu'on doit poser tout le temps, c'est le coup.
Alors, je ne suis pas là pour faire de la vente, normalement, parce que je fais de la recherche de développement, mais c'est 249 euros. Alors, ça, c'est aussi quelque chose à prendre en considération, c'est-à-dire que ça reste un accessoire. Donc, il faut déjà avoir un instrument pour l'utiliser. On veut quand même. Notre cœur de métier, nous, c'est pour utiliser des instruments de musique. Donc, on veut que le musicien puisse acheter déjà des instruments de qualité, et ce qu'on veut, c'est lui proposer des services en plus. Et notamment, les instruments électroniques que j'ai présentés plus tôt, il y en a certains qui ont 2000 euros, donc c'était pas notre cas aussi.
Une autre question peut-être plus intéressante, c'est dans la détection justement spectrale de la position du clé, jusqu'où va l'ambitus de la détection, puisque quand on va passer le registre sur les supplémentaires, est-ce que la détection se fait sur la totalité d'amplitude de la clarinette ou pas?
Alors, il y a des gens, j'ai envie de dire des ADM, qui montent à des notes très très élevées, non garantie le fonctionnement normal qui va du mi-grave, enfin mi-2 en anglais, jusqu'au sol 5 qui est l'accessimo, après le suraigu. Comme ça, on s'est détecté sans problème. Après, quand on va aller plus haut, c'est plus compliqué. Parce qu'on est sur les côtés de fourche, c'est là où on intervient énormément le produit vocal et les portes. Pour avoir un meilleur résultat, il faudrait réussir à mesurer ce que fait le système sans produit vocal en temps réel. Ce qui est encore un autre problème technique.
Question de Geoffrey.
Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser les variations de pression plutôt que de prendre le son, en fait, enfin, une variation de son, une variation de pression en fait, dans le corps d'instrument, qui pourrait être moins gênée par, justement l'ambiance extérieure?
Alors, non. Après, le son, c'est déjà une variation de pression en soi.
Oui, mais du coup,
de quelle ordre de grandeur de pression on parle en fait?
Justement, c'est un plus possible de la question.
Non, on est resté sur des volumes bas, parce que pour avoir des forts volumes, des forts niveaux, ça impliquerait quand même une motorisation qui met haute. Et alors, aussi autre chose, pourquoi ça marche bien, c'est que Clarinette, c'est naturellement designé de sa conception pour avoir des résonances qui correspondent à des fréquences de notes. Donc en fait, on a juste trouvé un stratagème pour récupérer cette information d'une manière monotique ou moins évidente.
Alors, il y a encore une question ici.
Alors, j'ai une question, c'est aussi fabricant de hautbois. Est-ce que vous avez fait des recherches équivalentes sur le hautbois ou pas du tout?
Alors, curieusement, c'est une question qui revient souvent. Alors, je ne sais pas si les hautbois sont des problèmes avec leurs voisins plus que les autres. Pas pour l'instant. C'est plus compliqué, parce que vous savez, le perce qui commence à un peu moins 4 mm en haut, très petit. Donc déjà, juste l'idée de mettre un microphone et un haut-parleur, ça ne laisse pas beaucoup de place. Plus quelque chose qui doit faire sortir l'air, parce que l'air doit sortir quelque part.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup, Michael.